RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi de commentaires et l'histoire d'aujourd'hui.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous et bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. Le secrétaire général de l'Assemblée consultative du peuple a invité les étudiants à comprendre la démocratie Pancasila. Le ministre des Affaires étrangères a dit « Nous devons soutenir la lutte palestinienne ». L'Indonésie est le marché potentiel des produits halal japonais. La demande du ministre du Commerce Engartes Tolukita à l'OMC lors de la réforme de l'organisation. Le Kenya va étudier la gestion des catastrophes en Indonésie. Et enfin, le café indonésien est de plus en plus demandé au Royaume-Uni. Voici le journal complet. Ma'ruf Cahyono, secrétaire général de l'Assemblée consultative du peuple, a invité la génération de millénaires, en particulier les étudiants, à comprendre la démocratie Pancasila, qui est différente des démocraties adoptées par d'autres pays. La génération de millénaires doit être une cible principale et prioritaire. C'est ce qu'a déclaré Ma'ruf Cahyono lorsqu'il est devenu l'un des principaux orateurs du séminaire national sur le défi de la démocratie Pancasila à l'ère du millénaire, organisé par l'Université Muhammadiyah de Purwokerto et par l'Assemblée consultative du peuple indonésien à la maison du rectorat de l'Université de Muhammadiyah Purwokerto UMP samedi. Selon lui, la génération de millénaires est la génération qui poursuivra la lutte de la nation indonésienne pour obtenir l'indépendance afin de réaliser les objectifs de paix énoncés dans le préambule de la Constitution 1945. Par conséquent, MPR et UMP ont organisé le séminaire national destiné à sensibiliser la génération de millénaires à la démocratie de Pancasila. La ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a déclaré que le soutien de la lutte palestinienne signifie soutenir la justice d'une nation dont les droits sont saisis. Elle a également déclaré que l'Indonésie ne devait pas oublier l'histoire. La nation palestinienne a du mérite en reconnaissance de l'indépendance de l'Indonésie. Cela a été dit la ministre à la conférence publique devant environ 600 étudiants de l'Université Erlangga à Surabaya récemment. Aujourd'hui, les territoires palestiniens sont toujours sollicités de sorte qu'il ne reste qu'une très petite partie. Pour cela, le gouvernement indonésien avec le peuple indonésien soutient toujours l'indépendance de la Palestine qui est également un mandat constitutionnel. Lié à la question du transfert de la capitale d'Israël à Jérusalem, la ministre indonésienne des Affaires étrangères a déclaré que c'était l'action contre les diverses résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. L'Indonésie doit jouer un rôle en convaincant la communauté internationale et les autres pays de respecter toujours les diverses résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies concernant la Palestine. La ministre indonésienne des Affaires étrangères a également déclaré que la question de Jérusalem était l'une des 6 questions qui devaient être négociées par la Palestine et l'Israël pour que le statut ne puisse pas être changé. Toshihiko Fukumatsu, représentant de la société alimentaire japonaise qui commence à produire des produits halal, a déclaré que l'Indonésie était un marché potentiel pour l'expansion des produits halal japonais. Comme l'a cité KBRN, Fukumatsu, lors du lancement de produits halal à Jakarta dimanche, a ajouté que la relation entre le Japon et l'Indonésie contribuait à l'expansion des produits halal sains en provenance du Japon. Toshihiko espère que la société indonésienne pourra être plus en santé et connaître les produits alimentaires halal japonais de son entreprise. Le ministre du Commerce Enggartias Tolukita a demandé à l'Organisation mondiale du commerce, OMC, de continuer à prêter attention aux pays en développement, y compris l'Indonésie, lors de la réforme de leur organisation. Le ministre du Commerce Enggartias Tolukita a déclaré dimanche dans sa déclaration à Jakarta que l'OMC ne devait pas oublier et ignorer les questions non résolues telles que le cycle de négociation de Doha et d'autres questions en restant attentive aux intérêts des pays en développement et des pays moins développés. Les réformes de l'OMC apporteraient des changements positifs au système commercial multilatéral et devra rester en mesure de prendre en compte les intérêts des pays en développement, y compris de l'Indonésie. Cela est expliqué par Enggartias après une réunion avec le directeur général de l'OMC, Roberto Azevedo, au bureau de l'OMC à Genève, en Suisse. En tant que coordinateur du G33, l'Indonésie souhaite également que la réforme de l'OMC continue également de prêter attention aux questions telles que la détention d'actions publiques et le mécanisme de sauvegarde spécial. Le Kenya peut étudier la gestion des catastrophes en Indonésie, comme tenu le Kenya est également un pays sujet aux catastrophes naturelles. Le secrétaire général de la Croix-Rouge du Kenya, Abbas Goulé, a indiqué samedi dans une déclaration écrite de l'ambassade indonésienne à Nairobi, reçue par Antara à Jakarta, que dans la dernière décennie, l'Indonésie avait pu mettre en place un système efficace de gestion des catastrophes, à la fois en termes de préparation technique et de réglementation. La déclaration était révélée par Abbas Goulé devant tous les représentants des pays de l'ASEAN à Nairobi lors de la manifestation Asian Charity Donation 2018 à Nairobi lundi le 19 novembre. Dans cette activité, tous les représentants des pays de l'ASEAN à Nairobi se composant de l'Indonésie, des Philippines, de la Malaisie et de la Thaïlande ont fourni environ 5 770 dollars américains d'aide à la Croix-Rouge du Kenya. Ces fonds serviront à l'achat de divers dispositifs médicaux pour le centre de santé intégré de Kalobeye au Kenya. Il a affirmé que l'Indonésie avait également été en mesure de jouer un rôle comme coordinateur efficace dans le traitement de l'aide étrangère. Récemment, l'Indonésie a été un bon coordinateur pour divers acteurs internationaux, y compris les organisations non gouvernementales internationales qui sont venues pour fournir leur aide. Il a ajouté que l'expérience de l'Indonésie au cours des dernières années était très utile pour être étudiée par le Kenya. À cette occasion, l'ambassadeur de l'Indonésie à Nairobi, Suharjono Sastro Miharjo, a déclaré que l'Indonésie était heureuse de partager ses expériences en matière de gestion des catastrophes à la fois avec la Croix-Rouge du Kenya et la Croix-Rouge internationale. Les saveurs du café indonésien sont de plus en plus demandées par les Britanniques. Cela se voit à la présence des importateurs et des propriétaires de café dans le pays lors de la journée du café Indonésie organisée par l'ambassade d'Indonésie à Londres. Le conseiller du ministre de l'ambassade d'Indonésie à Londres, Thomas Siregar, a déclaré à l'agence de presse Antara à Londres dimanche que l'importateur et le propriétaire du café se sont montrés intéressés et désirés faire les affaires avec des entrepreneurs et des producteurs de café indonésiens. Ils reconnaissent que le café indonésien a un goût différent du café instantané. L'ambassadeur d'Indonésie au Royaume-Uni en République d'Irlande et à l'Organisation maritime internationale, Rizal Sukma, a déclaré que le potentiel du marché du café indonésien au Royaume-Uni était très important comme tenu de la tendance changeante des traditions britanniques allant du thé au café. Il espère que les activités de la journée du café Indonésie pourront constituer un événement promotionnel visant à accroître les exportations de café indonésien au Royaume-Uni. Il a également encouragé diverses parties à participer au développement de l'industrie du café indonésien, comme fait par la Banque d'Indonésie et la Banque Mandiri, qui avaient établi des partenariats avec plusieurs producteurs de café indonésien. Serviteur, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta.
Les commentaires, le point de vue de RRI World Service, la voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Serviteur, après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire et pour le titre « Devenir l'enseignement à l'ère numérique ». Être enseignant n'est pas simplement une profession. Être enseignant est un appel du cœur à la réalisation de son mandat. En effet, l'enseignant est le modèle de la communauté conformément à l'acronyme javanais du mot enseignant qui est dit gugu ou suivi et imité. Les enseignants sont toujours guidés, cela veut dire leurs mots doivent être des modèles. Par conséquent, un enseignant doit avoir suffisamment d'autorité et une perspicacité assez élevée. Parce que tout ce qu'il dirait sera considéré comme vrai par les étudiants et la communauté environnante. Un enseignant doit également pouvoir être imité ses paroles, son esprit et l'attitude. Être enseignant, en particulier à l'époque aujourd'hui, a ses propres défis. Il n'est pas uniquement lié au développement rapide des technologies de l'information, mais aussi aux étudiants, à savoir les étudiants de la génération I ou du millénaire, nés dans les années 1980 à 1997, et de la génération Z, née plus tard ou souvent appelée la génération Internet. L'école est maintenant l'environnement d'apprentissage qui réunit deux générations différentes. Ce sont des enseignants de la génération X, nés entre 1965 et 1980, et des étudiants de la génération du millénaire et de la génération X, nés à l'ère de l'Internet. La rencontre entre différentes générations, si elle n'est pas abordée avec soin, provoquera certainement divers problèmes. De nombreux enseignants ont des compétences minimales dans le domaine de la technologie. On considère souvent que sa façon de penser réagit moins rapidement au rythme de développement des flux d'informations et de technologies que les étudiants familiarisés avec les développements technologiques. Les enseignants comme celui-ci pourraient être un éducateur fastidieux et même entraver la croissance et le potentiel des étudiants. Les étudiants de l'ère du millénaire sont souvent accusés d'être gâtés, peu motivés à l'apprendre et passer trop de temps devant la télévision, l'ordinateur ou la smartphone. Ils sont considérés comme une génération de confusion, instable et incohérente, car ils ne se sentent pas chez eux au même endroit pendant longtemps. Pour surmonter cela, les écoles ou les enseignants doivent être créatifs et créer une atmosphère d'apprentissage confortable. Les étudiants de la génération du millénaire et la génération X sont différents de la génération précédente qui devait s'asseoir du matin au soir en classe. En tant que génération familiarisée avec le monde numérique, ils disposent d'informations via des smartphones. C'est-à-dire que les opportunités d'apprentissage ne doivent pas nécessairement être dans la salle de classe. Ils peuvent accéder à l'information n'importe où et n'importe quand. Les élèves ont besoin d'une supervision proportionnelle car ils sont encore des êtres humains qui ont besoin d'un retour d'information, d'une attention et de l'appréciation des enseignants et des parents. L'enseignant n'agit plus toujours comme un patron qui donne des ordres qu'il faut être obéi. Les élèves du millénaire ont besoin d'enseignants bienveillants, adorent, discuter et guider dans la communication parallèle. Il faut accroître les compétences des enseignants, en particulier en maîtrisant la technologie de l'information, de manière à accroître leurs connaissances, ce qui aura un impact sur l'amélioration de la qualité de l'éducation. Bonne fête nationale des enseignants. Chère Rita, c'était le commentaire pour ce soir.
Les fêtes historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Chers auditeurs, pour la rubrique suivante, voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement Howard Carter est devenu la première personne à entrer dans la tombe Toutankhamon le 26 novembre 1922. Depuis que Howard Carter a découvert la tombe Toutankhamon le 26 novembre 1922, Toutankhamon est devenu une icône populaire de la civilisation égyptienne antique. Toutankhamon est enterré dans une tombe relativement petite pour son statut. La momie du roi Toutankhamon se trouve toujours dans sa tombe dans la vallée des rois le 4 novembre 2007. 85 ans après la découverte de Carter, la tombe de Pharaon est exposée dans une tombe souterraine à Luxor. Neb-Khepérou Toutankhamon était le pharaon de la 18e dynastie d'Égypte qui gouverne 1333 à 1324 avant Jésus-Christ, dans une période appelée le Nouvel Empire d'Égypte. Son vrai nom, Toutankhaten, signifie l'incarnation vivante d'Aten, tandis que Toutankhamon signifie l'incarnation vivante d'Amon. L'autre information est sur Lee Kuan Yew a été remplacé par Goh Chok Tong le 26 novembre 1990 après plus de 30 ans au pouvoir. Lee Kuan Yew était premier ministre de Singapour de 1959 à 1990. En 1954, Lee et son groupe formé en Angleterre ont formé le Parti du Mouvement d'Action Populaire afin d'encourager la mise en place d'un gouvernement souverain à Singapour afin que le colonialisme britannique prenne fin. Cinq ans plus tard, en 1959, Lee a été élu premier ministre de Singapour remplaçant David Saul Marshall, ancien ministre en chef de Singapour. Lee Kuan Yew est resté une personnalité politique influente à Singapour depuis sa démission du poste de Premier ministre le 26 novembre 1990. Lee Kuan Yew a été remplacé par Goh Chok Tong. Pendant le règne de Goh Chok Tong, Lee a été ministre principal. Nous finissons le soir avec l'événement. Le pont Kutai Kartanegara à Kalimantan Est s'est effondré le 26 novembre 2011. Le pont Kutai Kartanegara est un pont qui enjambe la rivière Mahakam et est le plus long pont suspendu d'Indonésie. La longueur totale du pont atteint 710 mètres avec une portée libre ou une zone dépendant sans support atteignant 270 mètres. Ce pont est un moyen de liaison entre la ville Tenggarong et le sous-district Tenggarong Seberang qui mène à la ville Samarinda. Le pont Kutai Kartanegara est le deuxième pont construit de l'autre côté de la rivière Mahakam après le pont Mahakam à Samarinda. Il est donc également appelé le pont Mahakam II. Ce pont a été construit pour rassembler au Golden Gate Bridge à San Francisco aux États-Unis. La construction de ce pont a commencé en 1995 et s'est achevée en 2001. Lors de son inauguration, il a été nommé pont de la Porte d'Ayaku, mais a été remplacé plus tard par le pont Kutai Kartanegara Ing Martadipura ou le pont Kartanegara. Le 26 novembre 2011, à 16h20 heure locale, le pont Kutai Kartanegara s'est effondré. Des dizaines de véhicules sur le pont ont plongé dans la rivière Mahakam, faisant 21 morts et des dizaines blessés. Les résultats de l'étude de trois équipes universitaires distantes ont montré des erreurs de construction. C'est le talk, c'est l'histoire d'aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Chers les auditeurs, nous continuons notre programme avec mon Indonésie et pour le titre, les négociations entre l'Indonésie et FTA-CEPA sont terminées. Le ministre indonésien du commerce, Enggar Tias Tolu Kita, a signé une déclaration commune montrant l'achèvement des négociations sur l'accord de coopération économique entre l'Indonésie et l'Union européenne, IECEPA, au secrétariat d'EFTA à Genève, en Suisse, vendredi dernier. Cette signature a été faite par le ministre Enggar Tias Tolu Kita avec quatre ministres des États d'EFTA se composant de la Suisse, du Liechtenstein, de l'Islande et de la Norvège. Cette signature marque l'achèvement des négociations entre l'Indonésie et les pays de l'EFTA, par l'intermédiaire du schéma de l'accord de partenariat économique global Indonésie-Union européenne, IECEPA. Le ministre Enggar Tias Tolu Kita a déclaré que les 5 pays étaient très heureux et reconnaissants que les négociations IECEPA, qui avaient duré 7 ans, aient finalement été résolues. Cet achèvement marque un tournant dans les relations de l'Indonésie avec les quatre pays de l'EFTA. Le ministre Enggar Tias Tolu Kita, comme publié par le ministère du Commerce, a déclaré que la prochaine étape était à effectuer un legal scrubbing et une traduction de sorte que techniquement et juridiquement IECEPA soit prête à être signée. IECEPA doit être signée à Jakarta en décembre 2018. L'Indonésie et l'EFTA sont en effet déterminés à mener bien les négociations cette année. Par conséquent, les négociateurs ont travaillé intensivement pour résoudre les problèmes existants. Enfin, les négociations ont été menées bien à Bali le 1er novembre 2018. Sur la base du ECPA, l'accès au marché des biens entre l'Indonésie et l'EFTA sera plus large, incluant les services et les investissements ainsi que la coopération économique et le renforcement des capacités. Dans le commerce des marchandises, l'Indonésie obtiendra un accès accru au marché de l'EFTA, tels que les produits de la pêche, l'industrie textile, les meubles, les vélos, l'électronique et les pneus d'auto et l'agriculture, y compris le café et le palmier à huile. Dans le commerce des services, l'accès au marché pour les travailleurs indonésiens, tels que stagiaires intra-entreprises, stagiaires, fournisseurs de services de contrat, professionnels indépendants et jeunes professionnels à l'EFTA sera plus ouvert. Par exemple, le secteur des services bénéficiera d'avantages tels que les services professionnels, les télécommunications, les finances, les transports et l'éducation. L'Indonésie bénéficiera également d'une augmentation des investissements des pays membres de l'EFTA dans les secteurs de l'énergie et des mines, des machines, de l'agriculture, de la pêche, de la foresterie et des industries chimiques, etc. En outre, l'Indonésie bénéficiera d'une coopération et d'un renforcement des capacités, par exemple dans les secteurs de la pêche et de l'aquamarine, de la promotion des exportations, du tourisme, des PME, des droits de propriété intellectuelle, de la durabilité, de la maintenance, de la réparation et de la révision, et de la formation professionnelle. L'EFTA est un groupe commercial de la région européenne où l'Indonésie n'a pas exploité ni exploité au maximum son potentiel de marché. Le ministre Enggar Tias Tolu Kita a souligné qu'avec l'achèvement de l'IECEPA, l'utilisation des parts de marché existantes dans chaque pays devrait être optimisée, de même que l'entrée sur le marché de l'Union européenne. Il espère également que cet accord pourra créer une base solide pour rattraper les autres pays de l'Asie, notamment les Philippines et le Singapour, qui ont conclu des accords commerciaux avec l'EFTA. C'était mon Indonésie pour ce soir. Chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel et apprendre l'indonésien.
connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme en Tunisie dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Chers amis, bonsoir. Nous vous reverrons dans le programme Le Magazine Culturel. Aujourd'hui, nous vous invitons à visiter cela aussi du Sud-Est. Alors, restez avec nous, La Voix d'Indonésie, le service mondial de RRI. Le district de Buton Central est l'un des nouveaux districts autonomiques à Sulawesi du Sud-Est qui possède plusieurs potentiels économiques. Parmi eux, sont dans le domaine agricole, maritime, minière, autant que le domaine touristique qui est aussi compétitif que d'autres régions à Sulawesi du Sud-Est. Sur le secteur du tourisme, le district de Buton Central, gouvernement des endroits touristiques qui sont récemment connus comme la plage Katembe, la plage Mutiara et la plage Marioboro. Et puis la grotte Maubu, la grotte Gumanano, la grotte Lobaloba, etc. Parmi ces endroits, la plage Mutiara qui se trouve au village de Gumanano dans le quartier de Mawasanka est récemment sous le développement pour introduire la plage au public comme l'endroit touristique supérieur du district de Buton Central. Cerita, Gumanano est un village appartenant au quartier de Mawasanka. On peut atteindre ce village après 84 km de voyage du port Ouamengkoli. Pour visiter la plage Mutiara, on doit tout d'abord arriver au village Gumanano. Ce village est relativement isolé, donc votre voyage sera un peu difficile. Vous pouvez commencer votre expédition vers ce village du centre-ville de Labunkari, la capitale du district de Buton Central. Vous pouvez atteindre ce district à partir de la ville Baobao en bateau ferry. Baobao est une ville accessible en prenant l'avion de Jakarta via Kendari pour la durée d'environ 3 heures avant de prendre le jet fuel ou le bateau de vitesse pour 5 heures. En arrivant à la plage Mutiara, c'est garanti que vous serez étonné par la beauté. Imaginez, le sable blanc est tendu presque au long de la côte. La plage Mutiara aurait plus belle quand la mer recule car le sable blanc va étendre. De plus, l'eau de la mer est toujours bleue et claire. Pas étonnant si la plage devient un excellent tourisme de Buton Central. Il y a beaucoup de touristes qui y viennent pour prendre des photos de la nature de cette plage en tant que le souvenir. Et bien sûr, ils vont aussi nager sur la mer étant très claire. Outre par nager, si vous aimez pêcher, vous pouvez le faire sur cette plage. À la plage Mutiara, il existe beaucoup de types de poissons. Après avoir passé quelques moments à Mutiara, vous devriez aller à d'autres parts du village Gumanano. Dans ce village, il existe une forteresse héritée par le sultanat de Buton qui s'appelle la forteresse La Saïdewa. Cette forteresse possède cette grande lawa ou porte. Puis, vous pouvez se baigner dans le lieu de baignade de Gumanano dont l'eau est fraîche mais un peu saumâtre. Il existe de nombreuses fontaines naturelles dans ce village, comme Oe Rada et Oe Mawonti. Pour ceux qui aiment le culinaire, vous allez aimer Kuku, un genre de moule verte. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre attention. À demain.
Mari berbahasa Indonesia. Parlons indonésien. Vous invite à parler bien et facilement indonésien.
Bonsoir à tous, nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique « Apprendre l'indonésien », un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et vous guide de parler indonésien. Ce programme est une collaboration entre La Voix d'Indonésie, la station de radiodiffusion à l'étranger RRI avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République d'Indonésie. Le sujet aujourd'hui est « Di sana ada pertunjukan en langue française, il y a un spectacle là-bas ». Ensuite, je vais donner un exemple de conversation ayant pour titre « Di sana ada pertunjukan en langue française, il y a un spectacle là-bas ». Tony, Joko, Endah et Dinda sont dans un centre culturel à Yogyakarta.
Wah, di sana ada pertunjukan tari topeng. Mau menonton?
Mau, tapi kita tunggu Dinda dan Joko dahulu di sini ya.
Oke.
Serviteur, après avoir écouté cette conversation, je vais introduire les expressions et le vocabulaire sur le thème d'aujourd'hui, à savoir di sana ada pertunjukan. Di sana ada pertunjukan en français. Il y a un spectacle là-bas. Je vais prononcer deux fois et vous pouvez répéter après moi. Pertunjukan. Pertunjukan. En français, spectacle. Tari topeng. Tari topeng. En français, danse du masque. Di sana. Di sana. En français, là-bas. Di situ. Di situ. En français, là. Di sini. Di sini. En français, ici. Di sana ada pertunjukan tari topeng. Di sana ada pertunjukan tari topeng. En français, là-bas, il y a un spectacle de danse au max. Mau nonton? Mau nonton? En français, voulez-vous regarder? Mau, tetapi kita tunggu Dinda dan Joko dahulu di sini ya. Mau, tetapi kita tunggu Dinda dan Joko dahulu di sini ya. En français, je veux, mais nous devons attendre d'abord Dinda et Joko ici. Dans le dialogue, Endah a dit, di sana ada pertunjukan tari topeng. Di sana ada pertunjukan tari topeng. En français, là-bas, il y a un spectacle de danse au masque. Pour indiquer la position de quelqu'un ou quelque chose qui est assez loin de vous, utilisez le mot di sana. Di sana. En français, là-bas. Exemple, di sana ada pertunjukan tari topeng. Di sana ada pertunjukan tari topeng. En français, là-bas, il y a un spectacle de danse au masque. Dinda dan Joko berada di sana. Dinda dan Joko berada di sana. En français, Dinda et Joko sont là-bas. Pour indiquer le lieu où se trouve quelqu'un ou quelque chose près de vous, vous pouvez utiliser le mot di sini. Di sini. En français, ici. Exemple, kita tunggu Dinda dan Joko di sini. Kita tunggu Dinda dan Joko di sini. En français, nous attendons Dinda et Joko ici. Kemarin, di sini ada pertunjukan tari topeng. Kemarin, di sini ada pertunjukan tari topeng. En français, hier, il y avait une danse du max ici. Outre le mot di sana, di sana, en français, là-bas, et di sini, en français, ici, en indonésien, il y a d'autres mots dont la position est entre les deux mots, à savoir le mot di situ, en français, Lah, lorsque vous voulez indiquer la position de quelqu'un ou quelque chose qui n'est pas trop proche ni trop éloigné de vous, vous pouvez utiliser le mot « di situ ». « Di situ » en français « là ». Donc, si elle est triée de la distance la plus éloignée, la séquence devient « di sana ». « Di sana » en français « là-bas ». « Di situ ». « Di situ » en français « là ». Et « di sini ». « Di sini » en français « ici ». Exemple, saya menyimpan tiket di sana. Saya menyimpan tiket di sana. En français, j'ai sauvé le billet là-bas. Saya menyimpan tiket di situ. Saya menyimpan tiket di situ. En français, j'ai sauvé le billet là. Saya menyimpan tiket di sini. Saya menyimpan tiket di sini. En français, j'ai sauvé le billet ici. Cerita, avant de terminer apprendre l'indonésien aujourd'hui, pour plus de détails, écoutons l'exemple de la conversation encore une fois.
Wah, di sana ada pertunjukan tari topeng. Mau menonton?
Mau, tapi kita tunggu Dinda dan Joko dahulu di sini ya.
Oke.
Chers amis, c'était la rubrique Apprendre l'indonésien pour ce soir. Que cette rubrique soit utile pour vous qui voulez connaître davantage la langue indonésienne. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir. Chers auditeurs, nous finissons notre programme avec le magazine musical.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Les auditeurs de RRI du Service mondial de la Voix de l'Indonésie, n'importe où que vous soyez, on se retrouve avec moi Tiwi dans la rubrique du magazine musical qui vous présente les chansons indonésiennes. Dans cette édition, je vais vous présenter les chansons de Kroncong interprétées par des chanteurs indonésiens. Restez avec nous à www.voinews.id, à 3325 kHz ou à l'application de RRI Play sur votre téléphone portable. Pour commencer l'édition d'aujourd'hui, écoutons la chanson de Mamik Marsudi dont le titre est « Langgam ». Kerinduan.
Seruling ku malu di
Langgam kerinduan est une chanson mélodieuse et dont le rythme est séduisant, chantée par Mamik Marsoudi. Cette chanson parle du désir de quelqu'un pour son amant ému depuis longtemps. Bien qu'il ait essayé d'oublier, mais le désir est resté. Chers auditeurs, Mamik Marsoudi, ou Prasi Toresmi, est une chanteuse qui a une voix mélodieuse et séduisante. Bien qu'elle soit également dans le monde du chant, elle est en réalité mieux connue en tant que danseur. Grâce à ses talents de danseur et chanteur de cronchon, elle visite aux différents pays comme l'ambassadeur dans des missions culturelles. Son intérêt pour la musique cronchon est commencé par Marsoudi, son mari, qui a apporté des cadeaux de cassettes cronchon du directeur de la plateforme de Java Central, Taman Mini Indonesia Indah en 1983. Elle aimait l'une de ses chansons intitulée Une fleur. Avec ses chansons, elle a commencé à suivre le concours de chansons cronchon et elle a gagné. Après cela, elle rejoint à l'orchestre cronchon qui l'accompagnait pendant le concours. Depuis cela, son talent a grandi. Chers auditeurs, la suite, écoutons une chanson de cronchon intitulée Riwayat Sangkuriang, chantée par Teti Supangat. Bonne écoute!
Mengamuk bukan
Chanson de Teti Supangat dont le titre est Sangkuriang. Sangkuriang est une légende dérivée de Java de l'Ouest. Et la légende raconte de la création du lac Bandung, Dumong Tangkuban Prahu, Dumong Bukangan et Dumong Bukit Tunggul. L'histoire est très populaire parmi les gens de Java de l'Ouest et puis versée dans les paroles de la chanson de Kroncong intitulée Riwayat Sangkuriang. Cette chanson dont le rythme est Sunda, chantée avec soin par Teti Supangat, l'une des chanteuses de Kroncong talentueuses de l'Indonésie. À diverses occasions, Teti a collaboré avec d'autres chanteuses de Kroncong indonésiennes talentueuses telles que Tuti Mariati et Mamik Marsudi. Teti a été nominée pour le prix AMI Awards pour la catégorie de chanteur solo en 2015 et 2017. Chers auditeurs, la suite, je vous donne deux chansons intitulées Melati Pesanku, chantées par Mamik Marsudi, et Lamunan Kalbu, chantées par Teti Supangat. C'est des chansons ont également mis fin à notre rencontre cette fois-ci. Bonne écoute et au revoir.
Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes
sur 3325
kHz par le site www.voinews.id/french ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, informing, connecting, dignifying.
Suara yang lampau di kala aku duduk berdua sunyi sepi tiada bersuara hanya terdengar suara angin berbisik sepanjang pantai.
Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes
sur 3325
kHz par le site www.voinews.id/french ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, informing, connecting, dignifying.
C'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Écoutez tous les jours nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, La Voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta, 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook, The Voice of Indonesia, et Twitter, @voindonesia. SIA ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.